Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Ce qui me donne des soucis, c'est l'après-bourguivisme. J'ai beaucoup moins maintenant de soucis. J'ai pu écarter les éléments malfaisants, les éléments en qui j'ai eu confiance, auxquels j'ai donné ma confiance, qui m'ont trompé. J'ai pu survivre, guérir, pour débarrasser, n'est-ce pas, le chemin de la Tunisie de ces êtres malfaisants.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le dimanche 26 janvier dernier, en Tunisie, l'Assemblée nationale constituante a adopté le texte fondamental qu'elle était chargée d'élaborer, l'a adopté à une large majorité de 200 voix sur 216. Elle y a consacré 2 ans de débats houleux et 3 semaines de séances plénières quasiment ininterrompues. La télévision a retransmis la liesse dans l'hémicycle. Un peu partout autour du monde, on a salué une constitution qui contient, dans le pays où est né le printemps arabe, des dispositions progressistes qui sont, pour l'heure, inédites à travers le monde arabe. Une constitution qui tourne le dos solennellement à la charia. Une constitution qui garantit, je cite, « la liberté de conscience et de croyance et le libre exercice du culte, les libertés d'opinion, de pensée, d'expression, d'information » et d'édition, tout comme le droit syndical et le droit de grève, ou bien encore l'inviolabilité des logements, la confidentialité des correspondances, des communications et des données personnelles. Une constitution qui qualifie la torture morale et physique de crime imprescriptible. Une constitution qui proclame les citoyens et les citoyennes égaux devant la loi, sans aucune discrimination. Pour mieux comprendre cet heureux aboutissement, il paraît fécond d'aller rechercher dans les premières décennies qui ont suivi l'indépendance et avant la longue dictature de Ben Ali, au temps du gouvernement d'Habib Bourguiba, les prodromes de ces décisions récentes, en vérité sans pareil, de s'enquérir des spécificités d'alors qui peuvent avoir préparé celles d'aujourd'hui. Des rebonds sûrement, des contrastes aussi, en bon nombre. Jean-Pierre Filiu, professeur des universités à Sciences Po, et ancien ministre conseiller à l'ambassade de France à Tunis, spécialiste reconnu du monde arabe et qui connaît intimement la Tunisie et son histoire, va nous guider dans cette quête. Ce sera une bonne façon, j'imagine, de pulvériser un certain nombre de stéréotypes hérités du passé lointain.
L'appel des muezzins se fait et la sirène d'un paquebot nous dit qu'il vient vers toi, Tunis. A-t-il touché Istanbul ou dort le nom d'Irène? Arrive-t-il d'Aden qui sent l'ambre et l'anis? Qu'importe, il a couru sur les routes du large, il franchit ton canal, il accoste à ton quai. Ah, que c'est plein de fièvre, un bateau qu'on décharge. Ah, que tout est nouveau dès qu'on a débarqué. Des flamands en plein ciel lancent leurs flèches roses dans le rose du soir qui semble encore plus beau. Sur la colline, au loin, Carthage se repose et Sidi Bou Saïd rêve de Salambo. Tout est harmonieux, voluptueux, facile. Le temps à s'écouler éprouve un tendre ennui. On sent que l'horizon confine à la Sicile. On sent que le cœur touche aux mille et une nuits. On sent que dans tes souks, ce marché qui fait suivre le quartier des parfums au quartier des tailleurs, On pourrait de nos jours recommencer à vivre quelques contes d'amour, mieux que partout ailleurs. Chaque femme voilée est une énigme offerte qui vous frôle au passage et poursuit son chemin. Des Arabes trop beaux, devant leur porte ouverte, ont mis à leur oreille un bouquet de jasmin.
Jean-Pierre Filiu, bonjour.
Bonjour.
Vous m'avez paru un peu déconcerté, enfin j'ai tort de le dire, rien ne vous déconcerte en ce qui concerne la Tunisie et le monde arabe. Mais enfin, vous avez paru un peu étonné, et je le comprends, que nous commencions notre conversation avec cette archive qui est due au talent immense d'André de Badet, 1933. C'est un poème qui s'appelle « Escale à Tunis » et qui est interprété, figurez-vous, par Maurice Escandre, rien que ça, sociétaire de la Comédie Française, futur administrateur général de la Comédie Française. Le contraste est si vif avec ce qui commence de bouillonner en Tunisie à ce moment-là, entre adolescence et maturité d'Habib Bourguiba, que cet ensemble, ce magasin de mythologie et de clichés m'a paru en vérité mériter de vous être proposé.
Oui, effectivement, donc le jeune Habib Bourguiba, au moment où ses vers sont déclamés.
2 ans après l'exposition coloniale.
Est déjà un militant constitutionnaliste, c'est-à-dire destourien, ce qui nous ramène de plein pied dans l'actualité. C'est vraiment la constitution, le destour en arabe, qui est le fil conducteur de l'histoire de ce pays depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et cette première constitution du monde arabe en 1861 ouvre une période de lumière relative, comme toujours en Tunisie, qui est brisée par l'intervention coloniale française, le protectorat de 1881. Mais c'est toujours la constitution, le doustour, qui est opposé à la puissance protectrice, à la France. Et c'est donc ce parti que va rejoindre l'ambitieux et déjà très patriote Habib Bourguiba.
Vous devez saluer la présence du jasmin symbolique, puisqu'on a parlé de révolution du jasmin au moment où Bourguiba, à la fin de son itinéraire, est déposé par Ben Ali.
Voilà, c'était le mot qui avait été un peu fétiche pour montrer que ça avait été un coup d'État blanc, sans verser, donc en 1987. Et c'est étonnant de voir que certains commentateurs ont parlé encore de révolution du jasmin pour celle qui a renversé Ben Ali en 2011, alors que ce terme n'avait absolument pas cours en Tunisie.
Certains donc, observateurs étrangers, vous voulez dire.
Étrangers.
Par une sorte d'effet de latence.
Effet de latence, et puis à chacun son exotisme colonial, à chacun son jasmin.
On a eu le sentiment que pendant que les travaux se déroulaient à l'Assemblée nationale constituante, à Tunis, ressurgissait l'ombre de Bourguiba.
Oh, effectivement, c'était à la fois celui que les uns invoquaient, célébraient, pour se rassurer sur cet avenir de possibilités un peu angoissant. Et au contraire, c'était le monstre, le dictateur, l'impie, l'infidèle, le non-arabe, le non-musulman, que d'aucuns voulaient conjurer au contraire. Et on voit que cette assemblée a réussi à surmonter cette polarisation que Bourguiba avait au fond tout fait de son vivant pour entretenir, afin de maintenir son pouvoir absolu.
Il y avait d'ailleurs des critiques aussi à la gauche de l'Assemblée, d'une espèce de tradition un peu libertaire ou libertarienne.
Tout à fait. Donc on voyait dans l'héritage de Bourguiba aussi l'héritage policier, le parti omniprésent. Hein. De son temps, il n'y avait qu'un parti unique qui est quadrillé tout le pays avec ses différentes forces politiques.
À cet égard, il paraissait difficile de s'inspirer de lui ou de l'évoquer pour faire une constitution largement démocratique.
Mais il y a la question du l'équilibre des pouvoirs. Et les Bourguibiens, comme on les appelle encore aujourd'hui, et comme ils sont d'ailleurs fiers de s'appeler, veulent un exécutif fort, pensant que seul un président, qui n'aurait sans doute pas toutes les prérogatives qu'avait Bourguiba, mais en tout cas un chef d'État largement doté, peut s'opposer aux dérives parlementaristes dont pourraient profiter les islamistes et autres, à leurs yeux, générateurs de chienlit politique ou social.
Vous parlez de chienlit, on se demande si pendant les débats de l'Assemblée constituante, on a évoqué la constitution de la Ve République, évoqué en tout cas sa portée.
Il faut voir que la Tunisie a les meilleurs constitutionnalistes de tout le monde arabe et que pour avoir servi mon pays dans ce pays, donc comme numéro 2 de l'ambassade de France, très souvent...
Entre 2002 et 2006, il faut le préciser.
J'ai pu constater leur connaissance très précise, très érudite du droit administratif et du droit constitutionnel français. Donc ils connaissent parfaitement nos textes fondateurs, souvent bien mieux que nous. Ils connaissent aussi bien la constitution de la 4e que de la 5e. Il est évident qu'on s'envoyait ces deux modèles républicains à la figure jusque dans les travées de la constituante tunisienne ces dernières semaines.
Alors nous allons revenir à cette formation du personnage Bourguiba qui est indispensable à connaître pour comprendre ce que peut être sa marque, sa trace, tellement invoquée ces derniers mois en Tunisie. Écoutez donc ce qu'en dit Charles-André Julien. Je rappelle que Charles-André Julien a été professeur à la Sorbonne après avoir été un militant socialiste. Il a été au congrès de Tours en 1920 et il a écrit beaucoup sur l'Afrique du Nord, sur l'Algérie, sur le Maroc. Il connaissait bien la Tunisie. Charles-André Julien évoque le jeune Bourguiba, étudiant. Il est ici interviewé par Patrice Galbeau sur France Culture le 4 novembre 1975.
Cet homme était affamé de connaissances. Non seulement les Sciences Po, où il s'est lancé, je crois, dans les finances publiques, ce qui était une des choses les plus difficiles et qui l'a fait ressortir dans un excellent rang. Mais la Sorbonne, les cours de William Marseille, le grand arabisant qui parlait de philosophes musulmans. Et puis il allait jusqu'à Sainte-Anne, c'est le moment où le professeur Dumas présentait des fous. On n'avait jamais vu des présentations pareilles. Et il avait peu de quoi vivre. Il avait une vie dure, des épreuves qui lui sont arrivées, des charges nouvelles, mais il avait l'impression qu'il fallait qu'il prenne de cette civilisation française ce qu'elle avait le mieux, non pas pour changer sa civilisation à lui, qui lui est consubstantielle et dont il n'a jamais voulu abdiquer le fondement, mais pour honter sur cette formation islamique, sur cette tradition islamique, tout l'apport qui venait du modernisme, tradition du reste, qui dès le début du 19e siècle, avec Gemal ed-Din el-Afghani ou le Shir Abdou, avait marqué la volonté de l'ouverture de l'islam vers les nouvelles formes de science et de connaissance.
Le jeune Habib Bourguiba était élève au lycée Carnot à Tunis, bien qu'il fût originaire d'un milieu relativement modeste.
Oui, on voit, et ça va l'animer pendant toute sa carrière, cette méritocratie à la tunisienne, qui évidemment dépend beaucoup du système éducatif du protectorat à l'époque, et comment Habib Bourguiba va essayer de retourner contre la puissance coloniale ces armes qu'il va, avec passion, avec avidité, comme le rappelle Charles-André Julien, acquérir sur les bancs de la Sorbonne ou de Sciences Po.
Qui était son père ?
Son père était un modeste employé de la cour du Bey, qui en fait était factotum, hein, donc qui avait obtenu des facilités de la proximité avec le souverain d'alors, hein, même sous protectorat, il y avait cette fiction d'une cour souveraine.
Pour favoriser les études de son fils.
Exactement, et effectivement, il était très méritant, très doué, très volontaire, mais il faut...
Il aura toujours le goût de célébrer les hussards noirs de la République, mais en bonne part.
En bonne part, et là encore, en prenant soin de jeter un voile pudique sur des moments plus ambigus de son parcours.
C'est-à-dire ?
C'est un militant ambitieux, déterminé, qui veut donc renverser la vieille garde du Destour, ce parti constitutionnaliste dont il est militant. Et il va utiliser la question de l'enterrement des naturalisés, donc en 1938, le fait que ceux-ci pourraient être enterrés dans un cimetière musulman. Donc il va faire de la surenchère islamique. Donc là, on ne parle plus du tout de la Sorbonne ou de ce qu'il a acquis à Paris. Et c'est sur cette base-là que, pour simplifier, il va constituer le néo-destour, qui est donc sur une ligne beaucoup plus combative à l'encontre du protectorat français. Et en même temps, il aura une épouse française dès cette époque.
Qu'il a connue en France.
Qu'il a connue en
France. Plus âgée que lui.
Mais il ne cédera jamais, à la différence d'autres nationalistes arabes, aux sirènes de l'Axe, malgré sa libération par Klaus Barbie.
Oui, c'est curieux, il faut expliquer tout de même comment il a traversé la période de 1940 à 1945. Pourquoi était-il emprisonné pour pouvoir être libéré par Barbie?
Parce que justement, comme chef de ce néo-destour, hein, donc particulièrement radical dans ses revendications nationalistes, il avait encouru les foudres du protectorat, d'abord en Tunisie même, puis dans différents lieux de réclusion sur le territoire métropolitain. Et c'est là qu'effectivement Barbie le libère à Chalon-sur-Saône. Et c'est de là qu'il est transféré vers les palais de Benito Mussolini, qui lui fait une cour invraisemblable pour qu'il se répande sur les ondes contre la France. Il ne fera jamais ce geste. C'est non seulement tout à son honneur, mais c'est aussi un témoignage de sa vision politique. Il avait compris très tôt que l'Axe serait défait. Et il voulait donc se retrouver dans le camp des vainqueurs pour pousser son projet national.
Les Hitlériens pensaient que les dirigeants nationalistes arabes étaient au fond prêts à servir leur propre dessein aux dépens des puissances coloniales. À cet égard, Bourguiba n'a pas suivi ce raisonnement, c'est ça que vous nous dites?
Absolument. Et il s'est opposé avec beaucoup de constance, y compris à l'enrôlement de nationalistes tunisiens dans les services de propagande ou pire, dans les milices de l'Axe. Et c'est pourquoi, quand il est rentré en Tunisie, il a été non seulement libre et a pu reprendre son activité politique, mais c'est le bey, donc le monarque, qui lui était soupçonné, à juste titre, d'avoir pour le moins collaboré avec les puissances fascistes, qui se retrouvait en suspicion de la part des Français. Donc il a joué la France libre et il a gagné.
Il est à la fois journaliste et avocat. En 1945, il a une quarantaine d'années. On ne connaît pas exactement sa date de naissance.
Comme toujours, ce sont des familles très nombreuses. Hein. Je crois qu'il avait 6 ou 7 frères et sœurs, donc il y a une incertitude.
On ne sait pas si c'est lui ou un de ses frères, c'est ça que vous nous dites, c'est effrayant.
Non, mais simplement, effectivement, sa verve, sa plume, va devenir son arme principale, mais il ne réserve pas son poison le plus assassin aux Français, mais à d'autres Tunisiens qu'il veut écarter de sa voie vers le pouvoir. C'est très clair à cette époque. Il comprend en rentrant en Tunisie qu'il lui faut, si j'ose dire, désormais un affichage musulman et arabe. Il demande à faire le pèlerinage à la Mecque, ça lui est refusé. Il se prévaut de ce refus pour fuir en Égypte, où il va très tardivement, en 1945, commencer à hanter les couloirs de la Ligue arabe et obtenir une légitimité chez ces nationalistes égyptiens, syriens, libanais, voire originaires du Golfe, qu'il avait fort peu fréquenté auparavant.
Ces hésitations ou ces zigzags entre un certain esprit de laïcité et d'autre part une fidélité à la foi, dans les années 30 commençant, il est encore favorable au voile. Cette ambivalence explique aussi pourquoi les constituants tout récents ont pu, même selon des sensibilités différentes, invoquer sa grande figure.
En effet, on voit bien que Bourguiba a édifié de son vivant sa propre histoire sainte, en jouant sur les registres linguistiques, vu qu'il maîtrisait parfaitement le français comme l'arabe. En français, on l'appelle le combattant suprême, ce qui a effectivement une certaine allure. Mais en arabe, c'est le plus grand des moudjahidines, El Moujahid Al-Akbar, ce qui n'a pas du tout la même connotation, vu que ça veut dire qu'il a fait le djihad pour libérer sa patrie, qui est la Tunisie, et que donc la référence islamique est très très forte. Très souvent, on a ce double niveau dans sa politique et dans son auto-célébration.
Et en somme, quand la Tunisie conquiert son indépendance, après des répressions très brutales en 1952, lorsque la Tunisie conquiert son indépendance, au temps du gouvernement Edgar Faure, en 1956, il est déjà en position de leadership par rapport aux forces qui ont lutté dans ce sens.
En fait, sa direction est contestée et sa principale obsession, là encore, sera de jouer des Français pour se débarrasser d'abord du Bey, qui est toujours formellement le chef d'État, et autour de qui va s'engager un processus constitutionnel après l'indépendance.
Ce moment essentiel de l'indépendance, on en retrouve la couleur dans cette archive que je vais vous donner à entendre, Jean-Pierre Filiu, c'est la lecture par le chef du gouvernement tunisien, au temps du protectorat finissant, Tahar Ben Ammar, et ensuite cette lecture est poursuivie par Christian Pinault. C'est le protocole d'accord franco-tunisien qui confirme cette indépendance. Le 20 mars 1956, une archive de Paris Inter, Christian Pinault, je le rappelle, est le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Guy Mollet.
Il constate avec satisfaction que cette évolution permet l'accession à la complète souveraineté, sans souffrance pour le peuple et sans heurts pour l'État. Ils affirment leur conviction qu'en fondant leur rapport sur le respect mutuel et entier de leur souveraineté, dans l'indépendance et l'égalité des deux États, la France et la Tunisie renforcent la solidarité qui les unit pour le plus grand bien des deux pays.
En conséquence, la France reconnaît solennellement l'indépendance de la Tunisie. Dans le respect de leur souveraineté, la France et la Tunisie conviennent de définir ou compléter les modalités d'une interdépendance librement réalisée entre les deux pays en organisant leur coopération dans les domaines où leurs intérêts sont communs, notamment en matière de défense et de relations extérieures. Les accords entre la France et la Tunisie établiront les modalités du concours que la France apportera à la Tunisie dans l'édification de l'armée nationale tunisienne.
Ce texte, Jean-Pierre Filiu, pouvait comporter comme toujours sa dose d'ambivalence et on se demande comment Bourguiba l'a regardé et ce qu'il a cherché à en tirer.
En fait, Bourguiba est en embuscade en mars 1956. Il est le chef donc du néo-destour, de ce parti nationaliste, mais il est loin de contrôler l'ensemble du courant et il a un rival qu'il craint beaucoup, Ben Youssef.
Salah Ben Youssef.
Voilà, qui incarne une vision plus arabe, plus islamique que la vision, pour faire simple, plus occidentale, plus lumière de Bourguiba. Mais on est vraiment au cœur de ce qui continue aujourd'hui de faire débat dans la Tunisie d'aujourd'hui. C'est-à-dire, cette Tunisie, elle est à la fois youssefiste et bourguibienne. Elle ne peut pas n'être que l'un ou que l'autre, de même qu'elle ne peut pas aujourd'hui n'être que Nida Tunis, donc le parti bourguibien, mené par un des héritiers de la doctrine, ou Narda, le parti islamiste. Or, ce que va faire Bourguiba, de manière absolument implacable, c'est déclencher une guerre interne au camp nationaliste et la remporter. Il faut savoir qu'il y aura 10 fois plus de morts entre les nationalistes en 56-57, de l'ordre de 3000, que les 300 qui sont tombés pour conquérir l'indépendance contre la France, et que cet épisode à la fois fondateur et sanglant est totalement occulté, parce que les youssefistes, donc les partisans de Ben Youssef, sont écrasés, ils sont en fuite, leur chef s'exilera, sera poursuivi et finalement assassiné par la police de Bourguiba à Francfort.
Dans une chambre d'hôtel, on ne sait pas cela, c'est cet homme des Lumières qui se présente comme tel, qui est Bourguiba, et comme vous le dites, implacable, jusqu'au meurtre des opposants.
Implacable et admirable manœuvrier, vu que la constituante qui se réunit au lendemain de l'indépendance, à la différence de celle qui a mené ses travaux de 2011 au mois dernier, va être sous influence et d'une certaine façon, Bourguiba va la détourner pour imposer d'abord la proclamation de la République en 1957.
Au lieu d'une monarchie parlementaire.
Au lieu d'une monarchie parlementaire. Et puis une constitution qui ouvrira la voie à un régime présidentiel de plus en plus autoritaire, dans une seconde phase, à une présidence à vie. C'est-à-dire qu'on a vraiment un détournement de l'indépendance par Bourguiba. Sa contribution à la lutte nationale est évidente. Mais il va immédiatement s'en servir pour son son autorité personnelle, et justement en déniant au peuple les capacités d'émancipation propre, en faisant comme si ce combattant suprême devait rester son dirigeant suprême, sur un mode évidemment paternaliste, et qu'il était le seul à pouvoir garantir ses libertés, mais qu'il pouvait les reprendre si tel était son bon vouloir.
Donc la comparaison entre les deux assemblées constituantes, celle d'autrefois et celle toute récente, conduit à insister plutôt sur les différences que sur les ressemblances, même s'il y a eu beaucoup d'invocations de Bourguiba, vous le disiez, dans les travaux récents.
Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la constituante de 1957 n'est pas souveraine. Elle est sous influence de Bourguiba, qui va l'utiliser, la manipuler au profit de la mise en place d'institutions qui sont taillées sur mesure de sa personne. Alors que la constituante élue en 2011 et qui a donc abouti à la fondation d'une deuxième république le mois dernier, laisse justement ouverte des institutions qui ne peuvent pas être accaparées par telle ou telle personne et, on est en droit de l'espérer, il y a un certain nombre de garanties, pas non plus par telle ou telle partie. Donc effectivement, c'est une constitution démocratique, alors que la première constitution, c'était une constitution bourguibienne, qui effectivement a fourni le cadre d'une présidence à vie pour le combattant suprême.
Il est étrange néanmoins qu'on ait tellement invoqué Bourguiba tout récemment. En somme, c'est un Bourguiba mythifié, un combattant suprême un peu imaginaire, qui a été une référence pour ceux qui se sont servis de sa grande ombre.
Il y a ceux qui l'invoquent, parce que effectivement, avec le passé, la figure de Bourguiba gagne en lumière et perd en nombre. Mais il y a
phénomène
aussi
fréquent, oui.
Il y a aussi la rage des djihadistes qui ont quand même essayé, pour l'anniversaire des élections générales, de faire un attentat sur le mausolée de Bourguiba. Donc, comme si cette personne défunte depuis 2000 les menaçait encore par son propre symbole. Et puis il y a ce processus que personnellement j'analyse comme une libération nationale qui se poursuit. Je ne crois pas que la Tunisie ait conquis l'intégralité de son indépendance en 57, vu que à peine libérée, elle avait remis l'essentiel de sa liberté à un seul homme qu'il a utilisé à son unique profit. Donc je crois que cette libération authentique, cette poursuite de l'indépendance, cette seconde indépendance ou cette seconde république n'ont vraiment été atteintes que le mois dernier par la nouvelle constitution.
On a parlé souvent de despote éclairé pour le règne plusieurs décennies de Habib Bourguiba, puisqu'il est resté au pouvoir jusqu'en novembre 1987. On a parlé d'un despote éclairé, ce qui voudrait dire qu'il est à la fois extrêmement attaché à son pouvoir, avec des moyens que vous évoquez, très très brutaux, et en même temps qu'il a introduit des valeurs issues du XVIIIe siècle, des Lumières, qu'il connaissait si bien. Alors, comment peut-on voir cela? Est-ce qu'il y a une face lumineuse et une face sombre du point de vue de nos critères d'aujourd'hui?
Le cas Bourguiba est un cas unique. Il n'y a aucun dirigeant arabe qui soit à la fois un héros de l'indépendance et en même temps le premier dirigeant qui suit celle-ci. Aussi bien Nasser qu'Assad que Kadhafi, sans même parler de Boumédienne, arrivent bien après l'indépendance. Tandis qu'avec Bourguiba, on a une captation presque totale qui fait que, quelle que soit la dimension progressiste indéniable de son programme, c'était toujours à sa plus grande gloire. Et puis il y a sur la laïcité une vraie ambiguïté. La laïcité à la française est tout à fait spécifique et souvent on applique ce concept à la Turquie ou à la Tunisie, des pays où il n'y a non seulement pas de séparation entre l'Église, donc entre la mosquée et l'État, mais il y a contrôle de la mosquée par l'État. Et ce contrôle de la mosquée par l'État, nous voulons y voir une laïcité.
On est plus proche en fait de Napoléon et du concordat de 1801 que de la loi de 1905 de séparation.
On est effectivement dans une construction, vu qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam, et que donc on va bureaucratiser une fonction publique religieuse pour que celle-ci soit aux ordres du président. Et effectivement, c'est cela qui se passe en Tunisie, Donc c'est une bonne nouvelle quand ça va dans le bon sens, mais ça peut être une terrible nouvelle quand cette confusion des genres est justement utilisée de manière dangereuse.
La dernière constitution comporte d'ailleurs sa part d'ambivalence, puisque l'islam est la religion du pays, et en même temps on assure toutes les libertés, et on utilise un verset du Coran un peu ambigu.
La constitution de Bourguiba en 1957 était beaucoup plus ambiguë que celle qui a été adoptée en 2014, qui représente des avancées incontestables, notamment en matière de liberté de conscience. Et puis il y a aussi des avancées inédites, y compris au nord de la Méditerranée, en matière de droits des femmes, en matière de parité, vu que la représentation politique est censée être garantie à égalité entre les deux sexes dans le cadre constitutionnel.
Mais avant d'en venir à cette grande question du féminisme, dont on a beaucoup parlé à propos de Bourguiba, en 1964, à propos du Ramadan, à l'époque, il avait beaucoup frappé en buvant un verre de jus d'orange le jour, en plein Ramadan.
Que dit le président Bourguiba à propos du Ramadan ?
Une observance du jeûne est permise et licite dans la mesure où elle n'empêche pas l'accomplissement du travail.
Est-ce qu'il y a des îlots de résistance à ces réformes ?
Résistance, non, mais ça a été mal accepté, disons, par certaines personnes d'un certain âge, ce qu'on appelle les vieux turbans, voyez-vous. C'était normal, c'est dans l'état des choses, ils ont pris l'habitude. Ils ont perdu le contact avec la vraie réalité de la loi musulmane. Ils s'en sont tenus à la lettre et c'était normal qu'ils aient accepté plus ou moins mal. Disons.
Si je vous ai bien compris, on pense en Tunisie qu'il n'y a pas possibilité de construire un État moderne sans moderniser aussi la religion.
Mais c'est certain.
Il y a là, possiblement, Jean-Pierre Filliu, quelque chose qui est à l'origine de cette nouvelle constitution d'aujourd'hui. Ça ne fait pas contraste violent du tout.
Et en même temps, on voit comment Bourguiba utilise la religion à son profit. Il ne dit pas « il faut ceci parce que le pays doit être modernisé ». Il dit « il faut relire l'islam pour l'adapter ». Donc il est plutôt dans une modernisation, il faut quand même le dire, très autoritaire des textes, vu que tout imam qui avait le malheur de contester l'interprétation du chef de l'État pouvait encourir les pires avanies.
Jusqu'à être zigouillé éventuellement.
À Kairouan, donc, où il y avait eu des émeutes tout à fait violentes, avec des morts à la suite de cette provocation assumée de Bourguiba buvant un verre de jus pendant Ramadan en disant « je fais le djihad », c'est-à-dire « je fais ce qui est l'obligation la plus importante pour un musulman, mais mon djihad à moi, c'est le djihad pour le développement, et comme je fais le djihad, je suis dispensé du jeûne ». Ce qui est une interprétation un peu osée, mais dont on voit bien qu'elle était dans le cadre d'une casuistique islamique, et non pas dans un cadre laïque, comme ça a pu être dans d'autres pays arabes, où on se voulait anti... Même en Turquie, fondamentalement, c'est une interprétation d'État plutôt que de l'anti-religieux.
À propos du développement, il est intéressant aujourd'hui, où la Tunisie s'interroge sur le modèle d'essor économique qu'elle peut adopter, de voir que Bourguiba a faseyé entre un socialisme d'État et plus de place donnée au libre marché.
En 1960, Bourguiba bascule dans la voie socialiste avec l'enthousiasme des néophytes. Il faut voir que l'époque s'y prête, qu'effectivement tout le monde parle marxiste ou moins progressiste à l'époque et surtout au sud, que l'Algérie voisine ne peut que l'y encourager. Mais on va avoir un choc extrêmement brutal entre une idéologie d'État collectiviste et une réalité tunisienne faite de petits entrepreneurs, d'exploitations agricoles de dimension modeste. Et cela va conduire à tout simplement une catastrophe économique. Le blâme sera jeté sur Ben Salah, donc l'animateur de cette option socialiste, comme si Bourguiba avait pu décemment ignorer la catastrophe qui était en cours. Mon interprétation, c'est qu'il utilisait cette socialisation à la Schlag pour accentuer le quadrillage des populations par le parti unique, donc le parti socialiste d'Estourien. Il avait éprouvé le besoin d'ajouter socialiste pour donner des fonctions de police à son parti. Et puis tout ça sur fond de crise grave avec la France, la crise de Bizerte en 1961, où là encore, Bourguiba a voulu jouer des passions collectives, mais s'est heurté à un De Gaulle absolument intraitable sur le respect des traités franco-tunisiens, qui n'impliquait la dévolution de la base militaire de Bizerte qu'en 1963. Donc on a eu un drame terrible à Bizerte.
Rappelez ce qui s'est passé, c'est souvent oublié, sauf par Jean Daniel, le grand journaliste français qui a été grièvement blessé en cette occurrence.
Donc en 1961, Bourguiba joue avec le feu, c'est un peu familier, retenez-moi où je fais un malheur, et personne ne le retient. Et c'est un carnage vu qu'il lance la population désarmée à l'assaut des bases parachutistes à Bizerte qui ont ordre de repousser à tout prix la populace. Donc c'est un bain de sang. Les Français de toute façon rendront la base peu après, mais il est hors de question que pendant les négociations cruciales sur l'indépendance de l'Algérie, il cède quoi que ce soit sur Bizerte.
De Gaulle dit à Alain Perfitte, au moment où Bourguiba lance ses troupes, en effet, sur Bizerte, « Il a cru que j'étais en position de faiblesse. Il s'est cru autorisé à lancer ses troupes sur Bizerte. Nous avons écrabouillé son armée. Il faut que le monde sache que l'armée française, c'est quelque chose. Il n'avait qu'à ne pas s'y frotter. »
Mais cela va susciter un très grand trouble à l'intérieur de l'armée tunisienne qui va tenter un coup d'État en 1962, qui sera écrasé par Bourguiba. Et c'est aussi une des particularités du système tunisien, c'est que du coup l'armée va être très affaiblie volontairement par le chef de l'État, qui est toujours le cas aujourd'hui. On a à la fois une armée faible et une armée populaire. On se rappelle de scènes de liesse pendant la révolution tunisienne en janvier 2011, quand l'armée intervenait dans des villages insurgés et où la police était détestée et l'armée acclamée. C'est à date aussi de cette époque-là que, en effet, la police va devenir vraiment le croque-mitaine du Tunisien moyen, alors que l'armée est célébrée, d'autant plus qu'elle n'a pas volonté à prendre le pouvoir.
Ce que vous dites sur l'armée permet d'ailleurs une comparaison avec d'autres pays arabes où les relations entre la toge et les armes sont très différentes entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire.
Effectivement, Bourguiba a sauvé son pays d'une dictature militaire comme trop de régimes arabes en ont donné l'exemple, mais c'est pour verser dans le quadrillage policier. On pense que sous Bourguiba finissant ou à l'apogée de Ben Ali, la Tunisie était sans doute un des pays arabes à la plus forte densité policière. C'est-à-dire qu'on était complètement surveillé et qu'à cette surveillance policière omniprésente s'ajoutait la présence du parti, donc parti socialiste d'Estourien du temps de Bourguiba, rassemblement constitutionnel démocratique par la suite, donc toujours ce mot de constitution ô combien dévoyé d'un chef d'État à l'autre, mais la réalité c'est que la cellule du parti remplissait des fonctions de police, de flicage de la population et évidemment participer aux opérations de vote généralement de manière collective, vu que c'était la cellule qui disposait des cartes électorales de l'ensemble de la population locale.
Je voudrais que nous en venions maintenant, Jean-Pierre Filliu, à la grande question du féminisme, qui est également, peut être considéré de façon également ambivalente. Il reste qu'aujourd'hui, Bourguiba apparaît dans le monde arabe comme celui qui a le plus porté la défense et l'illustration de la cause des femmes. On le trouve d'ailleurs, je le signalais tout à l'heure, dans la constitution toute récente qui vient d'être adoptée. Écoutez ce reportage d'Evelyne Ray de Robert Morris sur les femmes tunisiennes, un reportage qui a été diffusé à la télévision française en 1967.
Tunisie, 13 août l'an dernier, jour décrété férié. C'est la fête de la femme. La fête de la femme, il fallait l'inventer. On l'est inventée en pays musulman, c'est une chose à peine croyable. Et si Evelyne Rey, pour son reportage, a choisi la Tunisie, c'est parce qu'il existe un immense, un irrésistible mouvement d'émancipation de la femme, exceptionnel pour le Maghreb et même pour tout l'islam. Voici 11 ans, le président Bourguiba, seul, contre toutes les traditions, promulguait le code du statut personnel, supprimant la polygamie, interdisant la répudiation de la femme par son mari, légalisant le divorce. En leur enlevant aujourd'hui leur voile, ce qu'il appelle ce misérable chiffon, le chef de l'État rappelle que la femme tunisienne est, en droit du moins, égale de l'homme. Quelques heures plus tard, au palais de Carthage, changement de décor. Le président et sa femme, Vassila Bourguiba, reçoivent les cadres de l'Union nationale des femmes de Tunisie et des personnalités. Ici, il n'y a plus de voile à enlever, les bourgeoises de Tunis n'en possédant plus depuis beau temps. Mais la chaleur est la même, et en dehors de la chaleur, il y a autre chose. Ces images révèlent qu'il existe entre Bourguiba et les femmes, disons, un climat, une affinité particulière. Il n'est pas pour elle que le père de l'État. Il est le père tout court, et même le mari, dans une cellule familiale quelque peu démantelée par cette véritable révolution.
On voit là Bourguiba camper dans le pire et le meilleur. Parce que effectivement, il y a cette volonté d'entrer dans tous les foyers, d'être le père et le mari, et effectivement de s'inviter à la table de chaque Tunisienne et de chaque Tunisien pour consolider son omniprésence. Et puis il y a, comme pour l'indépendance nationale, la réécriture de l'histoire tunisienne, où le mouvement féministe était très actif dès les années 20 et 30, et où à l'époque, Bourguiba n'était pas forcément un défenseur des droits des femmes.
Il donc, était même pour le voile, on a des textes à cet égard tout à fait topiques et frappants.
Et pour le voile islamique, si je peux introduire la distinction, non pas pour le safsari, qui est le voile traditionnel, très élégant, qui peut être d'ailleurs de multiples couleurs, et qui a malheureusement largement disparu aujourd'hui en Tunisie, au profit du voile dit islamique, qui est de toute autre facture. On voit aussi que même dans le code de statut personnel, Bourguiba est loin d'avoir rompu les amarres avec la tradition islamique, qui continue de l'encadrer. C'est une interprétation de la tradition islamique qui permet de supprimer la polygamie.
C'est très important.
C'est très important, mais l'héritage, en revanche, reste défavorable aux filles et aux femmes qui n'ont que la moitié de la part de leurs frères. Et donc, c'est une disposition que Bourguiba s'est bien gardé, malgré ses accents émancipateurs, de toucher pendant les 30 ans de son règne, où il avait pourtant les capacités sans limite pour se faire.
L'interruption volontaire de grossesse, la Tunisie précède la France.
Là, on peut trouver Bourguiba l'apôtre du développement. Et effectivement, il a compris, comme tous les sociologues du développement le savent parfaitement, que le développement est lié à l'émancipation de la femme.
Et donc, aussi une limitation à la démographie, peut-être.
Tout est lié. Enfin, à partir du moment où on a, en fait, dans la séquence vertueuse, c'est élévation du niveau d'éducation féminin, baisse du taux de fécondité, accentuation de la part des femmes dans le marché du travail et développement. Et l'avortement, évidemment, s'inscrit dans cette logique vertueuse du point de vue de Bourguiba, mais qui n'est pas une logique d'émancipation aussi individuelle qu'il paraît. Ce qu'il veut, c'est que la Tunisie, à laquelle il est littéralement marié, hein, vu qu'il en est le président à vie, hein, eh bien, prenne son rang sur la scène internationale alors qu'elle n'a d'autres ressources que le travail des Tunisiennes et des Tunisiens. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de phosphate, il n'y a pas de ressources naturelles. Et donc, on retrouve des fondamentaux, alors là, de l'histoire tunisienne bien antérieure à Bourguiba, qui est le rôle des femmes, pas la peine d'aller jusqu'à Didon, mais on voit bien ou Salambo, pour savoir que effectivement les figures féminines sont tout à fait fondamentales dans la Tunisie, et qui existe quand même à peu près dans ses frontières actuelles depuis des siècles, en tout cas depuis le début de cette ère.
Mais alors, est-ce que les féministes d'aujourd'hui invoquent Bourguiba ou évoquent l'insuffisance de ses choix et de son combat pour ce qui les concerne?
Les féministes se sont concentrées sur la question de l'héritage en faisant procès d'ailleurs à Ben Ali de n'avoir pas accompli les promesses de Bourguiba en ne réalisant jamais cette égalité dans l'héritage et donc ainsi en s'opposant à ses volontés de se présenter comme le meilleur défenseur des femmes. Mais il y a eu des avancées tout à fait inédites en matière de violences conjugales qui sont cette fois-ci désignées à l'intérieur même de la Constitution comme étant un mal à combattre par tous les moyens. Et là-dessus, on peut considérer que la Constitution tunisienne est en avance sur beaucoup de constitutions européennes.
Écoutez ce qu'il dit, il faut entendre sa voix. C'est un extrait d'un entretien du combattant suprême avec Jacques Chancel dans Radioscopie, France Inter, le 13 décembre 1974. On est un peu à mi-chemin du règne de Bourguiba, même, disons, aux deux tiers.
Et vous êtes un homme d'avenir?
Maintenant,
parce que 40 ans, c'est le passé.
Non, moi, je vous le dis franchement, j'estime que, comme l'a dit un Français, n'est-ce pas, une grande vie, c'est un rêve de jeunesse réalisé dans l'âge mûr. J'ai réalisé mon rêve de jeunesse. Ma mission, je l'ai accomplie. Tout ce que je poursuis pour les quelques années qui me restent encore à vivre, c'est d'essayer d'habituer le peuple à se grouper pour la première fois de sa longue histoire, non seulement autour d'un homme, mais autour d'un État, de façon que ce que j'ai fait puisse durer, puisse continuer après moi. Ce qui me donne des soucis, c'est l'après-bourguibisme. J'ai beaucoup moins maintenant de soucis. J'ai pu écarter les éléments malfaisants, les éléments en qui j'ai eu confiance, auxquels j'ai donné ma confiance, qui m'ont trompé. J'ai pu survivre, guérir, pour débarrasser, n'est-ce pas, le chemin de la Tunisie de ces êtres malfaisants.
Est-il difficile d'être trahi?
Qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas? Il y a les ambitions.
Qui sont humaines.
Les ambitions humaines. Il y a la couardise, la peur. Moi, j'ai été trahi dès Bourges-le-Bœuf. Tous mes camarades, n'est-ce pas, qui étaient membres du bureau politique, qui avaient été élus en même temps que moi, dont l'un était mon propre frère, qui était presque un père pour moi, élevé. Ils ont flanché. Ils ont écrit une lettre de soumission.
Le peuple, vous êtes content de lui?
Oui. Je vous assure, cette manifestation d'unanimité qu'il a montrée, n'est-ce pas, au moment des dernières élections présidentielles et législatives, m'a beaucoup impressionné.
Vous étiez inquiet?
Non, parce qu'il y avait tellement de gens qui criaient, n'est-ce pas, que des types que j'ai expulsés, n'est-ce pas, qui ont des partisans, les démocrates, l'opposition démocrate, l'opposition de Ben Salah, n'est-ce pas, le je sais pas quoi, qui est à Genève ou je sais pas où. Je dis, je vais voir ce peuple. On va le laisser parler. Il n'y a aucune loi qui oblige un électeur à venir donner sa voix. Il peut manifester son mécontentement en restant chez lui. Et j'étais prêt à accepter, n'est-ce pas, comme contre moi, tous les abstentionnistes, même ceux qui sont malades ou qui n'ont pas pu. Eh bien, il n'y a pas eu d'abstentionnistes. C'est ça qui m'a fait plaisir. Eh bien, cette unité nationale, n'est-ce pas, ce n'est pas pour moi que... C'est cette unité nationale que j'ai voulu créer, n'est-ce pas, et qui s'est créée pour la première fois dans l'histoire de ce pays. Depuis des millénaires, notre histoire a été une succession, n'est-ce pas, de troubles, n'est-ce pas, de sécession, n'est-ce pas, de guerre, ce que j'appelle, n'est-ce pas, l'esprit, le vieux démon des Numides. Du temps de Jugurtha, n'est-ce pas, il a été trompé, il a été trahi, n'est-ce pas, du temps d'Abdelkader, de tous ces chefs qui ont essayé de créer quelque chose sur leur sol, un État, n'est-ce pas, national, n'est-ce pas, au service du peuple, ben, ils se sont cassés les dents, n'est-ce pas. Et l'histoire les a oubliés.
Je vous voyais un peu sourire, Jean-Pierre Filiu, en entendant cette expression du combattant suprême d'Habib Bourguiba. Il s'est débarrassé de tous les êtres malfaisants Et puis maintenant, il a l'unanimité autour de lui et ça le touche beaucoup.
Effectivement, c'est un privilège d'entendre un dictateur s'exprimer avec autant de franchise, voire autant de candeur. On peut être convaincu qu'il est convaincu. Et qu'effectivement...
En face de la fausse candeur de Jacques Chancel, disons.
Peut-être. Et qu'effectivement, il a eu raison contre tout le monde. Il a éminé tout le monde. Même quand il était seul, c'était lui qui était dans le juste et les autres qui avaient tort. Il s'est débarrassé d'eux de différentes façons, qu'il explicite ou qu'il n'explicite pas, vu qu'il a quand même procédé sans aucune vergogne à des assassinats politiques, aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger, pour éliminer ceux qui lui faisaient de l'ombre. Et en même temps, il y a cette idée que la Tunisie, c'est moi. Et que maintenant que j'ai reconstruit la Tunisie, je lui offre un État que j'essaie de laisser après moi de manière à préserver mon héritage. On comprend, en entendant ces propos littéralement renversants, à quel point il est difficile de s'émanciper d'une personnalité qui a accaparé avec autant d'énergie les ressources nationales.
S'émanciper aujourd'hui, vous voulez dire ?
De s'émanciper à son époque et évidemment aujourd'hui. Quand il parle de l'abstention, alors là, on ne peut que rire jaune. Effectivement, le parti unique avait des cellules dans l'ensemble du pays et toute personne qui n'avait pas remis sa carte électorale au parti ou qui, si elle l'avait gardée, ne se présentait pas au bureau de vote, n'était pas forcément tabassée ou torturée, mais était victime de ce qui a été d'ailleurs particulièrement efficace sous son successeur aussi, Ben Ali, la mort sociale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le parti a décidé que vous êtes ostracisé, eh bien c'est fini. Effectivement, vous pouvez toujours essayer de poursuivre des études, d'avoir une famille, d'ouvrir un commerce, d'avoir un prêt à la banque. Généralement, vous n'y arriverez pas. Vos droits n'ont pas été littéralement usurpés, mais vous n'existez plus dans cette Tunisie unanimiste qui doit être bourguibienne à 100%. Et ça, c'est le legs le plus terrible de Bourguiba. C'est, je l'espère, ce à quoi la révolution de 2011 et la constitution de 2014 ont réussi à libérer la Tunisie. C'est que la Tunisie, elle est plurielle. La Tunisie, elle est diverse. Elle ne peut pas être monolithique. Elle ne peut pas être une seule vision contre une autre. C'est ce carcan que Bourguiba avait fixé et dans lequel Ben Ali s'est coulé avec bonheur, qui, je l'espère, a désormais été brisé.
Au fond, on peut peut-être lire le sacrifice de Mohamed Bouazizi en décembre 2010, ce marchand de quatre saisons qui s'est immolé lui-même par le feu et dont la mort a contribué à déclencher le printemps arabe. Vous le racontez d'ailleurs dans une bande dessinée, Jean-Pierre Filut, très éclairante, très, très touchante. On peut voir cette mort comme une protestation contre cette mort civile.
Effectivement, je doute. De toute façon, personne ne peut connaître intimement ce qui a amené Bouazizi à ce sacrifice. Mais la mise en scène du sacrifice est en elle-même parlante. Et il s'est fait saisir sa seule possession, c'est-à-dire sa carriole de légumes, par la police, sans doute parce que celle-ci exigeait un pot de vin. Il veut protester devant les institutions de l'État. Il rentre une fois, il est rejeté. Il rentre deux fois, il est rejeté. La troisième fois, il s'immole. Donc c'est cet État qui avait raison envers et contre tout, et cet État qui, finalement, ne voyait plus les Tunisiennes et les Tunisiens, qui, effectivement, a été contesté par la révolution de décembre 2010, janvier 2011, elle-même productrice du processus constitutionnel qui a abouti le mois dernier.
Alors, Ben Ali, comme opposant à Bourguiba, qu'il a destitué, mais aussi comme continuateur, c'est une question importante. Évoquons ce passage dramatique lorsque le vieux monsieur est déposé par son Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, ancien chef des services de renseignement. Il y a un côté Poutine à cet égard. Il s'était d'ailleurs rapproché des Libyens au moment où Bourguiba avait rêvé d'une sorte de pays commun avec Kadhafi. Voilà comment Interactualité, le 7 novembre 1987, rend compte de cette destitution en donnant la parole à un journaliste du Figaro.
C'est ce matin, par la radio, que les Tunisiens ont appris que leur président Hafiz Habib Bourguiba, père de la Tunisie moderne, avait été démis de ses fonctions par son premier ministre, le général Ben Ali. C'est pour incapacité absolue à assumer les charges de sa fonction en raison de son âge et de son état de santé que la décision a été prise d'écarter du pouvoir celui que l'on surnommait le combattant suprême. Le nouveau président de la République tunisienne, Zine Ben Ali, en sa qualité de Premier ministre, était le successeur constitutionnel de Bourguiba. Dans un message à la Nation, lu à la radio, M. Ben Ali a précisé qu'il avait déposé le président Bourguiba en application de l'article 57 de la Constitution et sur la foi d'un rapport médical co-signé de 7 professeurs. Il y a tout juste 15 jours, notre confrère du Figaro magazine, Robert Lacomte, a rencontré celui qui était considéré comme l'homme fort du régime. Au micro de Daniel Messager, il évoque cet entretien.
Il se préparait quelque chose. On ne peut pas avoir 51 ans et être un homme punch et rester sous les ordres d'un monsieur de 84 ans. Quand je vous dis que Bourguiba était en forme, oui, il était en forme avec 84 ans. Ça, il ne voit pas bien parce qu'il avait la cataracte, il marche très péniblement, il est obligé de s'étendre toutes les heures dans un sofa pour récupérer. Il semblait avoir toutes ses facultés, oui, mais il devait perdre un peu la mémoire.
Alors, monsieur Ben Ali, lui, a connu une ascension vertigineuse. Comment vous a-t-il paru ?
C'est un homme très intelligent, qui a une mémoire prodigieuse, et il est ferme. Vous savez tous les problèmes qu'il y a eu avec l'intégrisme ces derniers temps. Il est évident que pour lui, la première priorité de la Tunisie, c'est l'économie. Il faut tout remettre en place, trouver des emplois pour les jeunes, calmer tous les esprits. Et il ne tolérera pas cette maladie des temps modernes de l'islam, l'intégrisme, c'est bien évident. Donc c'est un homme à poigne. C'est certainement le successeur solide pour la Tunisie. Et la Tunisie en a bien besoin.
Un successeur solide dont la Tunisie a bien besoin. Je ne suis pas sûr qu'au long des années qui ont suivi, les Tunisiens s'en soient persuadés. Néanmoins, c'est un peu déjà le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, en 2011, qui disait que Ben Ali avait souvent été mal jugé et qu'il avait fait beaucoup de choses.
Effectivement, Zeyni El Abidine Ben Ali, général de police et non général d'armée, qui prend le pouvoir par un coup d'État blanc, qui va être très populaire pendant sa première année parce que le pays était suspendu au foucade d'un patriarche sénile. Mais on voit comment Ben Ali, très vite, a repris le pire du système de Bourguiba, à la fois par les services de sécurité qui étaient son obsession, le parti de fait unique, la répression de l'opposition et cette idée que, au fond, les Tunisiennes et les Tunisiens n'étaient rien que ce que le chef leur donnait. Et c'est cela qu'en 2011, le peuple tunisien a refusé en renvoyant Ben Ali aujourd'hui en Arabie Saoudite et en lançant ce formidable processus démocratique qui aboutit à la constitution du mois dernier.
Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Filliu. Je voudrais signaler votre dernier livre qui est magnifique, qui concerne la Syrie, qui s'intitule « Je vous écris d'Alep ». C'est le fruit d'un voyage que vous avez fait là-bas, au cœur de la Syrie en révolution, qui est paru chez De Noël en 2013. Je parlais de votre bande dessinée. Le dessinateur, c'est Cyril Pommès. Cet ouvrage s'appelle « Le printemps des Arabes », paru chez Futuropolis en 2013. Vous êtes devenu un auteur réputé de bande dessinée et vous ne nous en tiendrez pas là, j'en suis sûr. Et pour évoquer une littérature abondante sur Bourguiba et sur son temps, le petit livre précieux de Jocelyne Daclia, « La Tunisie, le pays sans bruit », paru aux Actes Sud. Et puis la biographie, la plus importante, à vos yeux en tout cas, celle de Sophie Bessis et Souher Belhassen, « Bourguiba » aux éditions Elisade. Vous faites fond sur cet ouvrage ?
Ah, c'est un ouvrage formidable et en plus par deux vraies militantes des libertés, des droits des femmes.
Aujourd'hui, actuellement influente là-bas ?
Tout à fait, elle est toujours active. Souher Belhassen est l'ancienne présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme et Sophie Bessis est toujours très présente dans le débat tunisien.
Vous trouverez évidemment d'autres ouvrages sur notre site, comme vous le savez, et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission pendant longtemps, pendant très longtemps. Samedi prochain, ce sera peut-être une émission un peu plus légère, puisque nous irons à Venise à l'occasion du carnaval. Nous irons chercher les personnalités de ceux qui y participent sous leur masque, avec Gilles Bertrand. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisée par Patrick Molinier, préparée par Jeanne Guéroux et Nathalie Lempereur, avec Tristan Gratalon à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Véronique Jolivet pour les archivinats. Et dans quelques instants, comme chaque samedi, Dominique Rousset et ses invités pour l'économie en question.